française en Corée.
En tout cas, la présence d'Héloïse nous rend toujours heureux. Bonjour.
Bonjour.
Oui, enfin bon, ouais. Non, mais j'ai pas envie de commencer par être désagréable. Alors, je serai désagréable tout à l'heure.
Bon, Yann, tu sors déjà et après on parle. Alors, avant de s'intéresser au sujet de la semaine, j'aimerais vous présenter rapidement un instrument de musique coréen.
Oh.
Alors, cette semaine, je vais vous parler du tango.
Ah.
Oui, c'est un des instruments les plus célèbres de Corée.
Alors, le tango, vous entendez derrière, c'est un tambour à double peau en forme de sablier et il est le principal instrument à percussion dans la musique coréenne. Alors, le fût est creux, fabriqué d'un seul tenant en bois, habituellement peint et parfois décoré. Ces deux peaux circulaires sont montées sur des anneaux de métal lacés ensemble. Alors, on place habituellement le tango à l'horizontale, devant le joueur. La peau du côté gauche est épaisse et se frappe avec la tombe dans la main. Ce qui crée un son grave et lourd. Et la peau du côté droit est fine et se frappe avec une baguette de bambou. Et ce qui produit un son très sec. Vous entendez? Ok. Donc, le son peut être plus ou moins aigu selon que l'on resserre ou qu'on relâche la tension de la peau en déplaçant les lacets. Alors, c'est un instrument très très ancien.
En effet, on a trouvé une représentation de ce tambour sur une fresque d'une tombe datant du royaume Goguryeo de 37 avant le Jésus-Christ à 668 après le Jésus-Christ.
Le tambour est, il est utilisé aussi bien dans les musiques de cour, les musiques folkloriques et il a son propre répertoire solo dans les Samulnori.
Samulnori, ça veut dire quatre, moule, objet, nori, c'est jeu.
Voilà.
Donc, c'est l'ensemble des instruments à percussion.
Voilà, après toi.
Quatre.
Ok, mais dis-moi, Héloïse, je veux pas te corriger, j'ai pas trop l'habitude de te corriger, mais moi, personnellement, dans ma longue expérience, j'ai déjà vu des gens jouer du tango avec une baguette dans la main droite et une espèce de marteau dans la main gauche, quand même.
Eh oui, et grâce à ta remarque, je vais pouvoir enchaîner sur mon sujet du jour.
C'était pas ton sujet du jour.
Non. Ah. En fait, taper avec une baguette dans chaque main, un petit maillet, en fait, on va dire, et une baguette à droite, cela donnera plus de son, et cette technique est souvent employée pour la musique chamaniste. Et hop, j'enchaîne sur mon sujet, chamanisme, religion.
Les religions en Corée.
Voilà.
Donc,
parlons de religion.
D'accord.
Alors, un grand nombre de religions cohabitent en Corée.
La constitution coréenne garantit la liberté de religion et donc les principales religions du monde sont représentées dans le pays.
Oui, alors celles importées récemment en Corée, comme le protestantisme, sont très représentées, mais les religions traditionnelles sont encore intimement liées à la culture coréenne actuelle. Alors, les plus anciennes sont le chamanisme et le bouddhisme. Je mets volontairement le confucianisme, car c'est une religion sans Dieu, qui est plus apparenté à un dogme moral plutôt qu'à une religion dans laquelle il existe néanmoins certains rites encore pratiqués de nos jours.
C'est vrai, comme le Jongmyo-jere au sanctuaire de Jongmyo et le Seokjeon-jaje à Songgyun-gwan.
Oui, et puis le Kwan, le rite de passage à l'âge adulte lors de ce rituel qui nous replonge dans l'univers de la tradition lettrée de la dynastie Joseon. L'enfant se présente devant les initiés trois fois vêtu de trois tenues différentes, représentant ses peaux d'homme adulte. À la fin de la cérémonie, il sera un homme et on s'adressera à lui comme à un adulte.
Voilà, c'est-à-dire qu'on va plus parler, enfin, le vocabulaire va changer.
C'est ça, oui.
Voilà.
D'ailleurs, il va falloir que je le fasse un jour, cette cérémonie, pour qu'on arrête de me prendre pour un enfant.
Exactement, ça ferait du bien.
Ouais.
Les religions dites traditionnelles donc, rassemblent encore un très grand nombre d'adeptes. Néanmoins, avant de passer en revue les grandes religions présentes en Corée, il faut souligner que dans la société d'aujourd'hui, 46,9% des 47 millions d'habitants...
48 millions d'habitants,
oui,
maintenant.
Pardon, excusez-moi. Que comptait le pays... Non,
et
mais en 2005,
absolument.
Moi... 2005, donc 47 millions d'habitants que comptait le pays en 2005, déclaraient ne pas avoir de religion, 46,9%. Donc les 53,1% de croyants, soit environ 24 millions en 2005, se répartissaient de la manière suivante, 22,8% de bouddhistes, 18,3% de protestants et 10,9% de catholiques.
Le christianisme arrive donc en tête avec à peu près 30% des croyants.
Voilà, et l'ensemble des autres religions d'origine coréenne et l'islam ne représentent que 1,1% de la population.
Oui, il y a environ 200 000 musulmans en Corée cette année-là.
Donc on peut dire qu'en gros, il y a la moitié des croyants de confession chrétienne et l'autre moitié de confession bouddhiste, hein, pour on va généraliser un petit peu. Et ces chiffres font de la Corée un pays singulier, car c'est un des rares pays au monde où il n'y a pas de religion dominante. Et il n'y a pas non plus de conflit majeur entre les religions, et les Coréens fêteront aussi bien Noël que la naissance de Bouddha. Voilà, tout
c'est bien ça, non?
Ah oui, c'est bien.
C'est coexistence.
C'est cool, ça fait deux jours fériés à la place d'un.
Oui, double fête.
Mais tu ne penses qu'à fête, mais...
Ben oui.
Des cadeaux. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant aussi en Corée, c'est l'attitude des Coréens face à la foi. En fait, les Coréens peuvent mélanger les doctrines pour se créer une religion qui leur correspondent, et ils se sentent très libres de changer de religion pour en adopter une qui leur convienne davantage que celle transmise par leurs parents. Donc...
Oui, ça et la constitution coréenne qui garantit la liberté de religion, bah, ça pourrait expliquer qu'il y ait aussi autant de sectes.
Eh oui, parce qu'on a recensé en 2005 170 sectes en Corée, parmi les plus célèbres, l'église de l'unification.
Que les Français connaissent mieux sous le nom de secte Moon.
Bref, la plus ancienne des religions, c'est le chamanisme, culte très ancien des esprits et de la nature, arrivé avec les premiers migrants altaïques durant le néolithique.
C'était dur environ 5000 ans avant Jésus-Christ et 3 jours.
Voilà, 3 jours, 2 heures et 14 minutes, n'oublie pas. Et il est encore lié, donc le chamanisme est encore lié pour certains Coréens à de nombreuses superstitions, mais pour d'autres c'est surtout un élément pittoresque de la culture coréenne. Alors comment ça marche? Le chaman, appelé Mundong,
Bouddhang.
Ok. Le chaman, en transe, communique avec les esprits et donc peut prédire l'avenir et même guérir. Alors, pour qui ça s'adresse? Qui vous, comme ça, peut-être que nos auditeurs vont devenir chaman.
Je sais pas, ouais, pour peut-être. Qui?
Pour qui? Pour tout le monde. Quelle que soit ta confession, tu peux devenir chamaniste. Alors, à l'approche d'un entretien d'embauche, d'un examen ou d'un mariage, les gens, même les chrétiens, hein, souhaite obtenir les interprétations des chamans.
Même pour le déplacement, le déménagement.
Oui, pour savoir si la maison sera bien orientée et si on sera heureux.
Si c'est un bon jour aussi pour déménager.
Et pour le déménagement, bien sûr, on recourt aussi à un géomancien. Mais quand même, si l'endroit est bon pour se déplacer, se déménager. Donc on frappe à la porte des maisons de moulin. Beaucoup de régions organisent des festivals honorant cette religion, comme le festival de la danse des masques de Hawae dans la province de Gyeongsang du Nord, où on invoque les esprits protecteurs pour la paix.
Puis est arrivé, après le chamanisme, puis est arrivé en provenance de Chine le bouddhisme, environ en 370 après Jésus-Christ, qui s'est répandu en fait dans toute la péninsule. Une partie importante du bouddhisme coréen est du bouddhisme zen.
Oui, qu'on appelle ici son.
Son, oui.
Voilà. Le zen, c'est le son.
Le zen, c'est le son. Mm-hmm. D'accord. À travers le territoire, on compte actuellement près de 22 000 temples bouddhistes qui font partie des sites touristiques coréens les plus appréciés, car ils sont parmi les plus anciens. Alors les bouddhistes se rendent régulièrement dans les temples pour prier, ils s'y rendent aussi pour des occasions spéciales, des cérémonies, pour le jour de Bouddha ou autre. Et puis certains vont y séjourner pendant quelques jours, semaines ou mois pour méditer ou se retrouver spirituellement. Mais je développerai tout ça la semaine prochaine. Mais parlons aussi du christianisme. Alors le catholicisme arrive en Corée au XVIIIe siècle, environ donc un siècle avant le protestantisme. Les missions tributaires coréennes envoyées à la cour impériale chinoise s'intéressèrent aux livres des missionnaires jésuites et les emportèrent en Corée. En 1784, le premier Coréen fut baptisé à Pékin et retourna en Corée pour y fonder un lieu de prière. Donc de nombreux Coréens rejoignirent l'église catholique en dépit des persécutions ordonnées par le gouvernement.
Voilà, donc pour être clair, les Coréens, les premiers Coréens se sont convertis au catholicisme alors qu'il n'y avait pas de missionnaires dans leur propre pays.
Mm-hmm.
C'est simplement, ils ont découvert cette religion, ça leur a plu, et puis voilà.
Mm.
Voilà. Alors, en 1866, il faut se rendre compte qu'il y a eu des conséquences historiques assez importantes sur cette entrée du catholicisme en Corée, puisqu'en 1866, donc, 12 prêtres français des missions étrangères de Paris, qui ont entre le moment où les Coréens sont convertis et puis 1866, ont été en mission donc en Corée. Donc, ces 12 prêtres français des missions étrangères de Paris et 10 000 fidèles
mm-hmm.
et ont été tués, exécutés, massacrés, décapités. Enfin, ça n'a pas été très, très joli.
Ils n'ont pas été très sympas, le gouvernement coréen, là-dessus.
On en a parlé dans notre émission touristique sur l'île de Kangwa. C'est le lieu historique. Oui, en fait, 10 Français et 93 Coréens ont été canonisés lors de la visite de Jean-Paul II en 1984.
Donc, en gros, 10 prêtres français sur les 12 qui ont été tués ont été canonisés et 93 Coréens sur les 10 000 les 10 000 fidèles ont été canonisés. C'est très peu, finalement, comparé aux prêtres.
Il faut faire la distinction entre les gens qui suivaient simplement la religion et puis ceux qui la prêchaient et qui prenaient beaucoup plus de risques, a priori.
Mmh. Alors, les catholiques représentent plus de 5 millions de croyants et il y a plus de 1500 églises catholiques dans tout le pays. Il y a 2 cardinaux, 3 archevêques, 32 évêques et 4000 prêtres.
La plus célèbre est la cathédrale de Myeongdong.
Oui, la plus célèbre des églises. Et quant au protestantisme, il a fait son apparition de manière détournée, au travers d'activités caritatives prodiguées par des missionnaires anglophones venus dans le pays à la fin du 19e siècle. Mais ce n'est qu'à la fin des années 50 qu'il va connaître une formidable expansion sous l'impulsion des nombreux missionnaires qui s'installent en Corée pour assister le pays ruiné par la guerre. Donc ils viennent aider. Et le protestantisme en Corée, c'est plus de 8 600 000 fidèles.
Oui, fidèles qui passent tous leurs dimanches aux réunions de 10h à 18h.
Oui, lors de ces réunions. Donc moi j'ai beaucoup d'étudiantes qui, tous les dimanches, vont aux réunions en fait. Donc...
Il ne faut pas oublier que la plus grande église protestante au monde
mm-hmm.
est d'ailleurs pas très loin de la KBS, elle est à Yeovido. Je ne sais plus combien il y a de fidèles.
Mais
voilà.
Évangéliste.
Voilà, l'évangéliste, elle a, je ne sais plus combien de fidèles, c'est assez énorme.
Innombrable.
Ah oui ?
Oui. Et puis même au sein de la KBS, il y a une association de fidèles protestants. Mm-hmm. Donc tous les mercredis, à l'heure de déjeuner, on prête ensemble et on fait la prière comme ça.
D'accord. Et alors, donc, au niveau du protestantisme, il y a 65 000 églises, 125 000 pasteurs, 15 000 missionnaires coréens présents dans 175 pays du monde.
Et Louise, quand même, tu oublies les églises protestantes coréennes à l'étranger.
Ah oui, 3700 aux États-Unis, 310 au Canada et une trentaine en France. Quand même, c'est donc les églises protestantes coréennes qui se développent.
Alors, je ne sais pas si c'est pareil à l'étranger, mais ici, les églises protestantes, donc en français, je crois qu'on doit dire les temples. Donc, les temples protestants en Corée, on ne peut pas les manquer la nuit, parce qu'ils sont marqués par des énormes croix en néon rouge qui vraiment brillent.
Dans la nuit, oui, on voit que ça, d'ailleurs. Je ne sais pas si en France, non, je ne pense pas.
Je ne pense pas non plus.
Ce temple protestant coréen, je pense pas qu'il y ait des grosses églises, comme des grosses croix comme ça.
Là, c'est assez impressionnant. Ouais.
Mais pourquoi ? Pour montrer le lieu de culte, je sais pas.
Je sais pas du tout. Je sais que les catholiques ne le font pas.
Oui. Mais je ne sais pas. Alors, les religions en Corée ne s'occupent en tout cas pas seulement du salut de nos âmes, mais elles représentent un pouvoir très très fort aussi. Elles sont un des piliers de la Corée, car toutes sont engagées dans les domaines éducatifs, école, crèche. Ma fille, d'ailleurs, est en église, est en crèche protestante, donc c'est sociaux, donc hôpitaux, maisons de retraite, etc. Et culturels, donc les religions ont des journaux à eux,
la boulangerie.
La boulangerie ?
Oui, coréenne.
Ah bon ?
Oui.
Voilà.
Et à propos du nombre des cardinaux que tu as présenté, il faut rectifier ça,
mm-hmm.
parce que depuis le décès du cardinal Kim Soo-han, on en compte qu'un seul,
oui.
cardinal Nicolas Tongtinsoka.
Ok. Mais alors, voilà. Merci pour la rectification.
Et on va reparler aussi un peu de la relation la semaine prochaine.
Promis.
Bon. D'accord. D'ici là, je vais bien être en méditation.
D'accord. Mais en tout cas, je tenais juste à remercier Monsieur Lee Jing-myung pour sa conférence sur les religions en Corée aujourd'hui.
Ah, le professeur de Lyon.
Voilà. Merci à vous. À la semaine prochaine.
Retrouvez toute l'actualité de toute la Corée sur notre site internet http://world.kbs.co.kr/french.